aujourd'hui on va faire de la philo. Non, ne partez pas tout de suite. Je vais vous expliquer pourquoi Dark Vador est si méchant, pourquoi les personnages de Friends nous apprennent à être heureux. On va même chanter Hakuna Matata. Et puis vous rêvez chaque nuit. Parfois vous vous en souvenez, parfois pas. À quoi servent ces rêves? Que racontent-ils de vous? Pourquoi les cauchemars sont peut-être bénéfiques? C'est Minute Papillon, votre magazine de culture générale, tous les jours sur France Bleu. Tout de suite, on écoute Ava Max, Kings and Queens dans Minute Papillon. France Bleu. If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Can't live without me, you wanna, but you get na-na-na. Think it's funny, but honey, can't run the show on your own. C'est le tube d'Ava Max sur France Bleu.
Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
Dark Vador, Voldemort, tous ces personnages, pourquoi sont-ils si méchants? Peut-être que la philosophie peut répondre à cette question. Oui, la philo. Bonjour Marianne Chaillant.
Bonjour Sidonie.
Ravie de vous retrouver dans Minute Papillon. Vous êtes écrivaine et professeure de philosophie. Et le plus méchant d'entre tous, on est d'accord, c'est Dark Vador dans Star Wars. Quelles sont, Marianne Chaillant, les raisons qui ont fait basculer Anakin Skywalker, le prometteur Jedi, du côté obscur de la Force?
Les raisons qui vont le faire basculer du côté obscur, rappelez-vous, c'est qu'il va d'abord perdre sa mère, alors qu'il a des pouvoirs extraordinaires et il pensait qu'il aurait pu ainsi la protéger. Et dans une vision, il entrevoit qu'il va perdre sa femme. Et en fait, il est terrifié, voilà, à l'idée de comme ça, de perdre à nouveau quelqu'un qu'il aime, et il aimerait utiliser ses pouvoirs pour empêcher la mort de frapper ses proches. Non, il va trouver, rappelez-vous, Maître Yoda, et qui va lui donner une leçon de philosophie, justement.
Quelle leçon de philosophie Dark Vador va recevoir de Maître Yoda?
Eh bien, mettons-nous à la place d'Anakin si nous avions peur, oui, de perdre nos proches. Est-ce que nous suivrions les conseils de Yoda? Yoda lui donne deux leçons qui sont des leçons de philosophie stoïcienne. Il lui dit, premièrement, il faut que tu t'entraînes à perdre ce que tu redoutes de perdre. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'il faut apprendre à ne pas désirer ce qui dépend pas de nous. Et conserver nos proches pour toujours, ça dépend pas de nous. Et donc tous les jours, on doit s'entraîner, c'est ce que nous disent les stoïciens, hein, on doit s'entraîner, se préparer à la perte inévitable des gens qu'on aime. Comme ça, lorsque ça surviendra, d'une certaine manière, on se sera préparé. Et la deuxième leçon, c'est qu'il Yoda lui dit, tu sais, de toute façon, la mort te paraît scandaleuse à toi et à nous aussi, hein. Mais elle ne l'est pas. C'est un phénomène naturel et tu dois apprendre à voir les choses sous cet angle. La mort est un phénomène naturel. Évidemment, Anakin Skywalker, je ne sais pas comment vous réagiriez, Sidonie, mais lui, il préfère suivre les conseils de Palpatine, le méchant, le grand méchant, qui va lui dire « Moi, je vais te donner les pouvoirs de conjurer la mort. » C'est pas vrai. Mais c'est pour ça qu'Anakin bascule du côté obscur et qu'il devient Dark Vador.
Bah, je comprends, c'est difficile d'accepter de perdre ses proches, d'être philosophe en quelque sorte. Et donc, on peut faire de la philosophie en comme ça, regardant Star Wars, par exemple.
Eh bien oui, en fait, on apprend d'une certaine manière que les philosophes sont cousins des Jedi, parce que la philosophie, à sa manière, c'est une sorte de maîtrise de la force, un art du combat. Alors pas contre les forces du mal, mais contre tout ce qui en nous ou hors de nous peut nous affecter négativement.
Un autre méchant, Marianne Chaillant, célèbre aussi, qui a vaincu la mort, c'est Voldemort, c'est le mage noir dans Harry Potter. Vous nous racontez pourquoi il veut absolument tuer Harry Potter sur cette musique tout à fait légère.
C'est vrai. Et là, vous remarquez, enfin, que bien que ça paraisse léger, bien que ça paraisse uniquement parler de magie, en fait, la saga Harry Potter nous donne des leçons de philosophie et sombres parfois. Alors, Voldemort, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, il croit à la valeur des prophéties, si vous vous rappelez. La saga, ça commence parce qu'il a entendu une prophétie qui lui disait qu'un petit bébé qui allait naître aurait un jour le pouvoir de le détruire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'aller tuer ce bébé. Manque de bol. En voulant tuer le bébé, il crée son pire ennemi. Donc l'erreur de Voldemort, en fait, c'est une erreur de philo. C'est-à-dire qu'il a cru que le destin était écrit à l'avance, qu'on pouvait croire dans les prophéties. Il y a un gros débat dans la saga Harry Potter. Est-ce que le futur est écrit à l'avance ou alors est-ce qu'il dépend de nous de l'écrire? Et ce débat, ça s'incarne entre Voldemort et, par exemple, Harry Potter.
Ça veut dire, Marianne Chaillant, que Voldemort appartient à un courant philosophique?
Et oui, et là encore, donc la thèse de Voldemort dans le monde des Moldus, elle a été soutenue par une école de pensée prestigieuse qui est encore l'école stoïcienne, parce que les stoïciens, on a fait un peu de philo stoïcienne avec Yoda, on en fait là avec Voldemort. Les stoïciens, ils pensent que le destin, ça existe. Ils pensent que tout est lié. Ils pensent que que c'est écrit. Et du coup, ils se disent que les devins, leur tâche est de lire dans le présent. Les causes qui nous montrent déjà les effets qui vont survenir. Et donc, on a un personnage dans la série Harry Potter qui est le personnage Trelawney. Je ne sais pas si vous êtes fan de cette série. C'est la prof de divination. Elle a l'air un peu faux-folle. Et elle prétend, dans chacun de ses cours, lever le voile du futur. Elle a l'air un peu folle. Et pourtant, il y a des gens très sérieux, par exemple Cicéron, qui a défendu cette thèse dans un livre qui s'appelle « De la divination ». On pourrait, soi-disant, lire donc dans le présent les prémices du futur qui arrivent.
Et on sait, nous, dans la vraie vie, que le destin n'est pas écrit, que l'histoire n'est pas écrite et qu'elle est à écrire chaque jour par nos actions et par notre pensée. Vous racontez cette philosophie pop, sérieuse mais pop, dans In Pop We Trust, formidable livre paru aux éditions Équateur. Alors après avoir philosophé avec les méchants, je vous propose de comprendre le bonheur avec les personnages de Friends, du Roi Lion et de Titanic, tout de suite dans Minute Papillon sur France Bleu. Et Julien Doré sait nous rendre heureux avec nous sur France Bleu.
Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez monter l'eau, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre. Un peu de ventre et d'égo et quelques langues à défaire pour les revoir se plaire. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est. La lune est claire de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. demain c'est juste hier. Un peu laissé sur le dos, un peu blessé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Nous, 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 nous on s'en fout de vous. Vous pouvez prendre tout tant qu'on est temps.
Régalez avec nous la chanson de Julien Doré sur France Bleu dans Minute Papillon.
France Bleu, Minute Papillon.
Bah oui, un épisode de Friends est toujours synonyme pour vous, pour moi, de bonheur. Ce sont des personnages sympas, certes qui ont des soucis, comme nous tous, mais qui arrivent toujours à les dépasser. Mais comment font-ils? Les réponses avec mon invité Marianne Chaillant. Vous êtes écrivaine et professeure de philosophie et vous décryptez pour nous le monde à travers la culture pop. Je me suis refait toutes les saisons de Friends, 10 super saisons. Évidemment, j'ai encore dans la rétine le premier épisode de la série. On voit le personnage de Rachel, joué par Jennifer Aniston, qui, dès le début, va nous livrer une leçon de philo. Je vous avoue que je ne l'avais pas vue comme ça quand je l'ai regardée.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette pauvre Rachel, si vous vous rappelez?
Elle plaque se marier. Son futur marié. Son
c'est
futur
ça, elle allait se marier avec Barry et elle le plaque devant l'hôtel parce que qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une crise d'angoisse et elle s'est dit, mais est-ce que je suis pas en train finalement de suivre un chemin tout tracé sur lequel on m'a placé là sans que j'y réfléchisse? Est-ce que c'est vraiment la vie que j'ai envie de vivre? Et donc elle s'en va et elle va retrouver une amie d'adolescence, Monica, et tous ses amis, la joyeuse bande au Central Park, et elle nous embarque avec elle dans les aventures passionnantes que nous connaissons.
Et puis elle va trouver l'homme de sa vie, Ross, même s'il y a des hauts et des bas entre eux, ça va lui en changeant de chemin comme ça, elle écrit un destin plus positif.
Ce qu'on voit, c'est que bon, Rachel, elle va errer hein, avant de trouver ce chemin qui lui convient. Elle va errer, parfois c'est tâtonnant, parfois c'est un peu brouillon. Elle a du mal à quitter sa première vie, mais qu'est-ce qu'elle y gagne finalement à ce changement de vie qu'elle effectue grâce à cette crise d'angoisse? Ce qu'elle y gagne, et c'est pour ça je pense qu'on a tellement aimé cette série, c'est que ces personnages ils sont vraiment vivants. Voilà, et la vie qu'elle menait jusqu'alors, c'était pas une vie vraiment vivante. Elle était emmurée dans la représentation de la vie que les autres avaient eue pour elle. Et là, elle va vivre avec tout ce que ça comporte comme risque, comme erreur possible, mais au moins elle vivra véritablement.
Donc il faut chérir ses angoisses, les écouter, oui, et les suivre. Un autre personnage, Marianne Chaillant, de fiction, qui ne vit pas vraiment la vie dont elle rêve, c'est Rose dans Titanic. Elle est pour le plaisir, on écoute l'une des scènes les plus émouvantes du film.
Rose!
Non, ne faites pas ça! Non!
Empêchez-la!
Rose! Qu'est-ce que tu fais?
Arrêtez-la!
Non! Tu es trop stupide. Pourquoi tu as fait ça, hein? Tu es trop stupide, Rose. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi?
Tu sautes, moi je saute, pas vrai?
Kate Winslet dans ce film de James Cameron, Leonardo DiCaprio bien sûr. L'amour, le lien entre ces deux personnages et la notion de si tu sautes, je saute. Qu'est-ce que ça nous apprend? Est-ce qu'on a une leçon philosophique à
oui, alors
tirer
moi,
de ce
que
film
j'ai
culte
vu... Ce que j'ai découvert en revoyant Titanic, c'est qu'on avait une leçon qu'on pouvait aussi trouver chez un philosophe qui s'appelle Lévinas. Cette leçon, c'est que quand on rencontre véritablement autrui, pas simplement, voilà, on fréquente des gens, mais quand vraiment on a rencontré autrui, pour Lévinas, ça veut dire qu'on a été saisi par un appel qui résonne en lui, qui est venu nous interpeller, qui est venu nous déplacer de la position dans laquelle on se trouvait. et qui nous rend immédiatement responsables pour lui. Et pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on entend dans cet appel ? On voit l'autre en face de nous, vulnérable, et qui nous demande d'être présent pour lui. Et quand on répond à cet appel, ce qu'a fait d'abord Jack, là dans l'extrait que vous avez montré, c'est Rose qui sort du canot alors qu'elle aurait pu se sauver, mais qui choisit de revenir avec lui sur le bateau et sur le paquebot. Mais au début, tout démarre par lui qui vient la sauver au moment où elle veut se suicider. Parce que tous les deux se sont regardés, se sont vus, et c'est une véritable rencontre. Avant que d'être une histoire d'amour, ce qu'elle est, c'est aussi une très belle incarnation du concept de visage qu'on trouve chez Lévinas.
In Pop We Trust est le livre passionnant, Marianne Chaillant, que vous publiez aux éditions Équateur et qui décomplexe complètement la philo d'ailleurs. On peut en faire aussi en regardant Le Roi Lion et en chantant ça.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Qu'elles sont fantastiques!
Ces mots signifient.
Justement, Marianne Chaillant, que signifient ces mots? Ça veut dire quoi, Hakuna Matata?
Ça veut dire pas de soucis, si je m'en tiens à ce que disent Timon et Pumba. Et encore une fois, mais je vous assure, dans le livre, je ne parle pas du tout que des stoïciens, mais là, il s'agit encore une fois de morale stoïcienne. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces fameux stoïciens? Vous avez compris, en tout cas, qu'ils nous aidaient à nous défendre de ce qui peut nous arriver. Et le pauvre Simba, lui, il croit qu'il est responsable de la mort de son père, du coup, il a envie de mourir. Et Timon et Pumba, qui n'ont pas l'air d'être des philosophes, vont pourtant se révéler des philosophes en lui disant « Écoute, concentre-toi. Ici et maintenant, oublie ce que tu as fait dans le passé. Arrête d'avoir peur pour l'avenir. Arrête de te préoccuper de ce dont pensent les autres. » Toutes ces leçons, on les trouve chez Marc Aurèle, l'empereur Marc Aurèle, qui est un philosophe stoïcien, et qui nous dit « Si tu veux être heureux, si tu veux ne pas avoir de troubles de l'âme, essaye de te concentrer uniquement ici et sur l'instant, ici et maintenant. Et tu verras, tu vivras ta vie sans aucun souci. »
Vous avez adoré la série La Casa des Papel. Comme moi, vous avez espéré de toutes vos forces qu'il réussisse ce casse du siècle. Est-ce que c'est très moral tout ça d'ailleurs? On répond à cette question dans un instant dans Minute Papillon sur France Bleu. Juste après Manu Chao, il se passe tout.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gusta
de la mañana.
Tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Me gustas tú, c'est Manu Chao dans Minute Papillon sur France Bleu.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Vous faites de la philosophie et c'est pop dans Minute Papillon grâce à mon invité Marianne Chaillon. Vous êtes écrivaine et professeure de philo. Avec vous, on a philosophié avec les méchants, les bons aussi, les joyeux dans Friends, le royaume ou Titanic. Maintenant, on va parler de morale. Bah oui, on parle beaucoup de morale en philo et pour comprendre mieux, on va parler de Jurassic Park, le chef-d'œuvre de Spielberg. Écoutez un extrait.
Leur mémoire fixe, la première créature qu'ils voient en venant au monde. Voilà, ça m'aide à avoir leur confiance. C'est pour ça que j'ai assisté à toutes les naissances de toutes les petites créatures de cette île.
Oui, sûrement pas celles qui ont lieu dans la nature. Oui.
Elles ne peuvent pas se reproduire dans la nature. Le contrôle des naissances est pour nous une question de sécurité. Il n'y a aucune reproduction illicite à Jurassic Park.
Que nous enseigne ce film, Jurassic Park, cette histoire? Quelle philosophie en tirer?
Bon, je suis sûre comme moi, quand vous avez vu le premier Jurassic Park, vous vous rappelez de cette scène du Tyrannosaurus Rex, l'œil, son œil arrive dans dans la porte vitrée où se cachent les personnages. On a eu peur, voilà. Et en fait, du coup, ce film, il nous donne une leçon de philosophie morale qu'on trouve chez le philosophe Hans Jonas. Et qu'est-ce qu'il nous raconte, ce Hans Jonas?
Je ne le connaissais pas.
Il nous dit qu'aujourd'hui, on s'est doté d'une technologie parfaite, c'est vrai, très bien, mais sauf qu'on la maîtrise pas et on maîtrise pas ses effets. Ce nouveau pouvoir, comme dirait Spider-Man cette fois-ci, nouveau pouvoir implique nouvelle responsabilité. Et donc, vu qu'on a des nouveaux pouvoirs, il faut bâtir une nouvelle morale. Et cette nouvelle morale, en quoi elle consiste? Elle consiste à se faire peur, justement, et à ne pas s'autoriser de faire ce dont on ne sait pas ce que seront les effets.
Ah oui, donc on écoute sa peur, on ne ressuscite pas des chromosomes et des animaux.
Et Hans Jonas aurait fermé Jurassic Park. Voilà, il ne l'aurait pas ouvert parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et cela menace la possibilité d'une vie humaine sur Terre.
Autre œuvre de fiction, Marianne Chaillon, et autre leçon de morale, vous n'avez pas pu échapper évidemment au phénomène La Casa des Papel. Si vous y avez échappé, aucun problème, session de rattrapage, c'est vraiment une série formidable. Vous nous rappelez le pitch rapide de cette série?
On a un professeur qui va caster 8 braqueurs exceptionnels et ils vont aller dévaliser la Banque de la Monnaie à Madrid.
Et alors, il y a une leçon philosophique à tirer de ce projet de braquage, ça paraît fou, car quand même ce sont des méchants, des bads, ils font pas le bien.
Et oui, c'est ça. Ce sont des méchants et en même temps, on est pour eux. Et on est pour eux. Alors, est-ce que c'est parce qu'on soutient les méchants ou est-ce que finalement, est-ce que ce sont pas des Robins des Bois? Est-ce que ce qu'ils font, c'est moral ou immoral? C'est la question que je me suis posée en regardant la série. Et je crois que cette série, en fait, elle défend l'idée. Et peut-être vous vous rappelez cette scène où le professeur essaye de convaincre la policière qui le traquait et dont il est tombé amoureux. Et réciproquement, il lui dit, mais tu te trompes, c'est pas moi le méchant dans l'histoire. Ce que je fais, c'est pas du tout immoral, c'est pas méchant. Je ne vole personne. C'est de l'argent qui n'appartient à personne pour l'instant. Et donc, en fait, il incarne une philosophie morale qui consiste à dire que l'action qui est morale, c'est celle qui va engendrer des conséquences favorables pour le plus grand nombre de personnes. Qui est lésé par ce vol? Personne. Et par contre, en revanche, les conséquences sont très favorables à plein de niveaux que je développe dans mon livre.
Et ils ont un hymne qu'on adore. Bella ciao.
Oui.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato.
Merci beaucoup Marianne Chaillon, c'était passionnant les cours de philo avec vous. Vous revenez très vite dans Minute Papillon, mais en attendant des cours très fun à découvrir dans In Pop We Trust. C'est passionnant et c'est aux éditions Équateur. À très bientôt. Merci beaucoup, c'était un bonheur.
Merci à vous Sidonie.
Et tout de suite dans Minute Papillon, on va comprendre vos rêves. Vous passez un quart de votre vie à rêver.
Minute Papillon, le magazine joyeux de la culture sur France Bleu. Toute la semaine, 14h-15h.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, au petit matin, un réveil souriant pour vous servir et vous informer.
Bonjour,
Sophie Scarpula, Thomas Séchier.
Et on a un chouette programme pour les courageux qui tombent du lit le matin, Thomas.
On vous sert les toutes premières infos. On vous explique l'actu du coin de la rue au bout du monde.
Oh, ce que c'est beau ce que vous dites, Thomas.
Un peu de poésie aussi, ça fait pas de mal, hein?
Oui, c'est vrai. Et du sourire, bien sûr.
À demain.
Le club des Lève-Tôt sur France Bleu, du lundi au vendredi, dès 5h.
Pièce à conviction revient sur l'enquête des enfants placés. 2 ans après, les dérives dénoncées ont-elles été entendues? Leurs conditions de vie ont-elles changé? Les jeunes témoignent. Inédit, Pièce à conviction, enfant placé, que fait la République, suivi d'un débat animé par Virna Sacchi, ce soir à 21h05 sur France 3 et déjà sur la plateforme France.tv.
France Bleu.
Qui peut concurrencer MAF Pro ?
MAF Pro, bonjour.
Oui, bonjour monsieur, je suis boulangère et assurée chez vous, et ma vitrine a été cassée cette nuit. Comment ça se passe dans ces cas-là ?
Rassurez-vous, avec MAF Pro, vous avez une assistance. Je vous propose de mettre en place un service de gardiennage pendant 72 heures pour éviter les vols et d'organiser les réparations que MAF prendra en charge.
Oh, merci. Moi qui suis pro, je préfère MAF Pro.
Je préfère la MAF.
Nos conseillers se déplacent ou vous accueillent en agence. Informations et rendez-vous sur maf.fr.
France Bleu.
C'est déjà demain. Le magazine de la famille, tous les jours, sur France Bleu.
Bonjour à tous.
Églantine Émeillet.
Être un garçon ou une fille n'a jamais été une évidence pour tous. Et quand cette identité fait souffrir, pourquoi ne pas la changer ? Le genre est un sujet complexe sur lequel il faut des mots justes pour réinventer la société de demain. Alors pour vivre cette transition avec nous, rendez-vous ce mercredi à 15h.
C'est déjà demain, le magazine du mieux vivre en famille, du lundi au vendredi sur France Bleu, dès 15h. Somewhere.
Ah, programmateur chez France Bleu la nuit. Very good trip.
Les collectors de France Bleu. C'est nos limites sur les pépites. France Bleu collector. Chaque soir de la semaine, le programmateur de France Bleu a carte blanche. Carte blanche. France Bleu collector, 22h30, 1h.
Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.
Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves ? Est-ce que vous aimez rêver ? Moi, je suis une machine à rêves et à cauchemars aussi, et je me demande comment se forment nos rêves. Est-ce que c'est si mauvais que ça de faire des cauchemars ? À quoi ils servent ces rêves ? Bien sûr, il y a monsieur qui rêve, il y a madame qui rêve aussi, grâce à Alain Bachung dans Minute Papillon.
Madame rêve d'atomiseur et de cylindres aussi longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin. On est loin. Libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. d'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh ciel, oh ciel, on est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin. On est loin.
Madame Rêve, c'est Alain Bachung sur France Bleu dans Minute Papillon.
Minute Papillon sur France Bleu, jusqu'à 15h.
Vous aimez rêver ou vous en avez marre de faire des cauchemars? Vous allez découvrir dans Minute Papillon à quoi sert cette activité cérébrale intense. Bonjour Guillaume Jacquemont.
Bonjour Céline.
Bienvenue, vous êtes journaliste scientifique pour le magazine Cerveau et Psycho. Et on va commencer quand même par un chiffre qui est assez épatant. On passe combien de temps de notre vie à rêver? Quand je dis à rêver, c'est pas à rêver d'une autre vie ou à rêver, c'est-à-dire à dormir et faire des rêves.
Alors, on passe le quart de notre vie consciente à rêver, c'est-à-dire qu'on rêve pendant presque toute la nuit, une grande partie, peut-être 5-6 heures par nuit. Et ça, les chercheurs s'en sont rendus compte en faisant dormir des gens dans des laboratoires du sommeil et en les réveillant peut-être 10 ou 20 fois par nuit.
Très agréable.
Très agréable.
À ne pas faire. Alors, t'as rêvé, alors tu dors.
Exactement, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et donc, ils se sont aperçus que presque à chaque fois, ou très souvent en tout cas, ils recueillaient des rêves. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui arrive juste quelques secondes le matin avant de se réveiller. C'est vraiment une bonne partie de la nuit.
Est-ce que tout le monde rêve? Parce qu'il y a des gens qui vous disent « Ah non, mais moi je rêve pas, hein, c'est sûr. »
Il y a beaucoup de gens qui disent ne jamais rêver. En fait, très probablement, ils rêvent quand même, mais ils n'arrivent pas à s'en souvenir. On s'aperçoit qu'il y a une grande variabilité dans la capacité à se souvenir des rêves. Et on pense que ces personnes-là, si elles appliquaient quelques techniques simples pour s'en souvenir, elles arriveraient très souvent à retrouver quelques rêves. Bon,
on en parlera tout à l'heure, on donnera ces bons conseils à nos auditrices et nos auditeurs. Pourquoi est-ce qu'on rêve? Oula, la question elle est très vaste, mais bon, c'est quand même une question fondamentale.
C'est une question fondamentale. Alors, il y a deux grandes familles de théories. Il y en a une qui va dire qu'on rêve parce que ça a été sélectionné par l'évolution, parce que les rêves nous procureraient toute une série de bienfaits, comme exemple aider à digérer les émotions et des tas d'autres bienfaits.
Ah bah, vous en avez d'autres en tête?
Voilà, alors par exemple, ce serait aussi une sorte de simulateur de menace, ça simulerait tout ce qui peut nous arriver de pire pour nous y préparer.
Génial.
Ça aurait des fonctions.
Comme un entraînement en quelque sorte.
C'est tout à fait un entraînement.
Alors
c'est...
par exemple, je suis arrivée à France Bleu il n'y a pas longtemps, j'ai rêvé de la première que j'allais faire au micro de Minute Papillon, et j'en ai même cauchemardé, et c'est vrai que j'étais un peu plus détendue en dépit des cauchemars.
Exactement, bah, parce que... tant que ce n'est pas un cauchemar trop violent qui vous réveille trop souvent, on pense plutôt que les émotions négatives, ça fait du bien en fait dans les rêves. Ça nous permet de les digérer. Et donc effectivement, vous avez déjà revécu ce stress. Vous l'avez revécu aussi dans un état un peu particulier parce que le cerveau est dans un état biochimique particulier pendant le sommeil avec des hormones de stress qui se raréfient notamment.
Et donc, moins d'hormones de stress quand on rêve.
Il y a moins d'hormones de stress dans le rêve en général qu'à l'éveil. C'est pour ça que revivre des choses assez négatives ou vivre des choses assez négatives, finalement, ça vous aide à le digérer parce que vous le vivez quand même d'une façon plus neutre que si vous le faisiez à l'éveil. Et du coup, ça vous met dans un état un peu apaisé, vous permet de mieux accepter tout ça.
Donc vous voulez dire que faire des cauchemars, finalement, Guillaume Jacquemont, c'est presque bénéfique parce que souvent on est malheureux quand on fait des cauchemars, on est inquiet, on se dit mais j'ai un problème et pourquoi moi je sais que je suis une machine à rêves et à cauchemars, je me dis mais je vais pas bien en fait.
Alors faire des mauvais rêves, il faut bien distinguer les mauvais rêves des cauchemars, c'est-à-dire des rêves avec des émotions négatives, oui au fond ça fait plutôt du bien. Des cauchemars, en psychiatrie on parle de cauchemars quand vraiment c'est des mauvais rêves très violents qui vous réveillent et qui vont déteindre sur votre humeur la journée. Donc faire beaucoup de rêves comme ça, ça c'est plutôt un problème, il faut y être attentif. Mais tant que ça ne vous réveille pas, tant que ce n'est pas très violent, ce n'est pas grave de faire des mauvais rêves.
C'est passionnant. Où est-ce que le cerveau va piocher? Parce qu'il plane complètement le cerveau pendant les rêves. On se dit, quand on écrit ses rêves, on se dit mais qu'est-ce qui est allé? On mélange des personnages, des lieux, des émotions. C'est le grand désordre là-dedans.
C'est un grand bazar. Alors il va piocher un peu partout dans votre vie en fait. On sait qu'il pioche des bouts de souvenirs. On a même quantifié à quel moment il allait chercher. Et on sait que, par exemple, il y a 20% des souvenirs, des bouts de souvenirs des rêves qui viennent du jour tout juste écoulé. Pardon, 40%.
Oui.
Et ensuite, il pioche un peu partout. Il y a 20% qui viennent de plus d'un an. Et donc, à partir de là, il ne va pas rejouer les souvenirs à l'identique pendant les rêves, mais il va prendre effectivement tel petit bout, tel personnage, telle action, tel lieu, et il va mélanger tout ça selon des scénarios plus ou moins improbables. Dont certains spécialistes vont vous dire quand même qu'ils veulent dire quelque chose et vont chercher à déduire des choses.
On tourne notre propre film, c'est des films d'ailleurs qui ne durent qu'une nuit. Vous publiez, Guillaume Jacquemont, La science des rêves, sans souvenir, les interpréter, les piloter, c'est aux éditions Flammarion et c'est passionnant. À quoi ils servent ces rêves? Qu'est-ce qu'ils racontent de nous? On va en apprendre un peu plus sur nous, sur vous, sur moi aussi. Allez, à tout de suite dans Minute Papillon sur France Bleu. Et parfois, certains rêves donnent la fièvre, comme ce duo Dua Lipa et Angèle avec Fever sur France Bleu dans Minute Papillon. Before you came around, I was doing just fine. Usually, I don't pay no mind. And when it came down, I was looking in your eyes. Suddenly, I could feel it inside. I've got a fever. So can you check? Hand on my forehead, kiss my neck. And when you touch me, baby, I turn red. I've got a fever. So can you check? Peut-être qu'avec du temps, ça partira. Et pourtant, je ne m'y vois pas. Comme un médicament, moi je suis rien sans toi. Et je sais que je perds de temps en temps tes bras. Car dans mes yeux, ça se voit. La fièvre dans les yeux, oui, ça se voit. Mon cœur se serre, j'ai du feu dans la voix. Le plus souvent, c'est quand je pense à toi. C'est le duo sexy et très réussi de Dua Lipa et Angèle sur France Bleu.
France Bleu, Minute Papillon.
Ah, j'étais en boule. Mais en vraie boule. Je m'étais boulifié. Mais ils font ce qu'ils veulent dans les rêves, je te dis. Et je roulais. Ils m'ont fait aller dans le Loir-et-Cher, à Vesoul, dans le Val d'Oise. Pendant 5 ans, ils m'ont fait faire ça. À un moment, je me bloque. Et je regarde dans mon rétroviseur, parce qu'il m'en avait greffé un petit. Qu'est-ce que je vois dans le rétroviseur? Je vois un sanglier qui arrive vers moi, comme ça. Pour ralentir, comme ça. Mais pas un sanglier de documentaire animalier, hein. Un sanglier de cauchemar. Avec une jupe, un chignon, des petites lunettes, comme ça.
Bienvenue dans les rêves, ou plutôt les cauchemars d'Elise Moon. On passe un quart de notre vie imaginée à rêver. Ça paraît fou, on croyait en fait avant qu'on rêvait que quelques minutes par nuit. Mais non, on rêve entre 5 et 6 heures. C'est ce que nous apprend le journaliste scientifique Guillaume Jacquemont. Vous travaillez pour le magazine Cerveau et Picot, vous êtes auteur aussi. Qu'est-ce que nos rêves racontent de nous? Alors on ne va pas analyser la folie d'Elise Moon, mais je ne sais pas, on est assez nombreux par exemple à rêver qu'on tombe. Vous savez, on tombe, c'est terrible, moi, c'est un rêve que je fais souvent, c'est un cauchemar. Souvent, on se réveille parce qu'on essaye de se retenir et on me donne un gros coup de pied dans le lit. Ça, c'est un rêve qui a une signification.
Alors, Globalement, tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation des rêves, mais globalement, ce que vont dire les chercheurs modernes, c'est que la signification des rêves varie beaucoup, en fait. On ne peut pas faire un dictionnaire universel des rêves parce qu'un même rêve peut avoir plein de sources. Et effectivement, il y a des rêves comme les rêves de chute qui ont été faits très souvent, qui sont faits très souvent. Alors, ce qu'on a observé, c'est que ces rêves étaient plus fréquents, le rêve de chute en particulier, ouais. Et les cauchemars en particulier, étaient plus fréquents chez les personnes qui ont ce qu'on appelle une frustration des besoins psychologiques fondamentaux. C'est-à-dire, ça c'est une théorie psychologique qui dit qu'on a trois besoins qui sont l'autonomie, la compétence et les bonnes relations avec autrui. Ouais. Et chez les personnes qui ont des problèmes de ce côté-là, ils ont tendance à faire plus de cauchemars et plus de rêves de chute. Après, comme je vous dis, ça dépend vraiment. Ces rêves de chute, ils peuvent avoir plein d'origines. Ça peut être tout simplement parce que vous êtes tombé dans les escaliers, que ça vous a un peu fait peur et que du coup, vous revivez ce moment émotionnel un peu difficile. Donc, il ne faut pas en déduire non plus que vous avez forcément une frustration de ce côté-là. C'est important de se poser ensuite la question à l'éveil pour voir toutes les origines possibles.
En plus, ce qui est fascinant, Guillaume Jacquemont, c'est que les rêves sont nourris par notre vie personnelle, mais aussi le destin commun qu'on partage. En ce moment, on subit tous à l'échelle mondiale la Covid. Ça aussi, ça doit avoir un impact sur les rêves. On doit avoir des scénarios parfois un peu similaires.
Oui, tout à fait. Il y a plusieurs enquêtes, toute une série d'enquêtes qui ont été lancées pour analyser l'impact du Covid sur nos rêves. Et on s'est aperçu en effet que beaucoup de gens rêvaient de contamination, rêvaient du confinement, rêvaient. On s'est aperçu aussi que beaucoup de gens rêvaient un peu de leurs collègues. Il y avait une sorte de mélange entre la sphère professionnelle et la sphère privée, qui est au fond ce qu'on vit avec le télétravail un petit peu. Et on a aussi vu que la tonalité des rêves était un peu plus négative que d'habitude, parce que on vit beaucoup d'émotions négatives en ce moment, et ça reflèterait sans doute aussi ce travail de digestion que font les rêves.
Il faut que je vous avoue quelque chose, j'ai fait un rêve quand j'étais petite, j'en faisais beaucoup et je me disais j'aimerais bien prendre le pouvoir de mes rêves. Et je me souviens avoir réussi à me dire je suis dans le rêve de Sidonie Bonnec, c'était le défi que je m'étais donné. Ça paraît D'accord. fou ça ? C'est possible. Je vous raconte ma vie.
C'est tout à fait possible et c'est même une expérience assez fascinante qui s'appelle le rêve lucide.
Ah oui.
Le rêve lucide, c'est on réalise dans le rêve qu'on est en train de rêver. Et soudain, quand on arrive à rester dans le rêve, on prend le contrôle du rêve, on est capable de faire un peu tout ce qu'on veut. Ça c'est assez étudié, il y a des techniques pour le déclencher,
oui.
Et c'est une très belle expérience. Il y a un certain nombre de rêveurs lucides qui en profitent pour faire toutes sortes d'activités. Alors la première, c'est s'envoler dans les airs. La deuxième activité, c'est parler avec des gens. Ils parlent avec des membres de leur famille, avec des stars. Il y a même une enquête où quelqu'un a déclaré avoir rêvé avec un ours en peluche. Avoir parlé avec un ours en plus.
Toutes ces histoires, Guillaume Jacquemont, vous les racontez dans cet excellent livre, La science des rêves, sans souvenir, les interpréter, les piloter, c'est aux éditions Flammarion. Dans un instant, vous allez nous dire si les rêves disent la vérité sur nous, par exemple. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé de rêver d'embrasser quelqu'un d'autre que votre partenaire de vie. Ça veut dire quoi? Que vous ne l'aimez plus? Vous restez à l'écoute de Minute Papillon sur France Bleu, j'espère. Juste après Somebody That I Used To Know, on écoute Gauthier dans Minute Papillon. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. I Used to Know, c'est le tube de Gauthier que vous venez d'écouter sur France Bleu dans Minute Papillon.
Minute Papillon, on en apprend tous les jours sur France Bleu.
Il faut que vous sachiez une chose. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité très particulier. La sécurité du subconscient.
Des rêves, autrement dit.
Monsieur Cobain poste à pourvoir et il aimerait vous en dire deux mots.
Vous avez un stage pour moi ?
Ce n'est pas le terme exact. Nous créons le monde du rêve. Nous amenons le sujet dans ce rêve. Et le sujet y dépose tous ses secrets.
Et là, vous cambriolez le rêve ?
Bah, disons que c'est pas tout à fait légal.
Ça, c'est un rêve de l'être humain, avoir le pouvoir, prendre le contrôle des rêves, de ses propres rêves et des rêves des autres. C'est le sujet de cet excellent film de Christopher Nolan, Inception, avec Leonardo DiCaprio. Guillaume Jacquemont, vous êtes journaliste scientifique, vous travaillez pour le magazine Cerveau et Psycho. Et je vous posais cette question tout à l'heure, est-ce que les rêves disent la vérité ? C'est-à-dire, comme ça, vous dites que ça va piocher un peu dans notre quotidien, ça révèle un peu nos inquiétudes ou nos désirs. Si par exemple, je rêve que j'embrasse un autre garçon que mon mari, est-ce que je dois m'inquiéter et me dire « Oh, il y a peut-être de l'eau dans le gaz ?»
Pas du tout. Alors, en fait, les rêves explorent tous les scénarios possibles. Donc, c'est ce qui est important de prendre en compte quand vous faites ce type de rêve. C'est ce que vous avez ressenti et les émotions que vous avez eues à ce moment-là, quoi. Ce rêve, il peut dire toutes sortes de choses. Juste, il explore une possibilité ou c'est effectivement quelque chose dont vous auriez envie ou pas. Et comme à l'éveil, quand vous y pensez, si finalement vous avez ressenti des émotions positives, que vous vous êtes dit c'est super, là vous pouvez en déduire certaines choses. Si vous vous êtes dit oh là là c'était horrible, j'ai détesté ça, ça veut dire aussi quelque chose. Ça vous fait vivre en simulation des choses et ensuite vous voyez ce que vous ressentez.
Donc il faut fiche la paix à ses rêves et à soi. Est-ce que c'est une sorte de poubelle aussi de notre conscient finalement, ou notre inconscient, les rêves ? Une expression qui permet de se libérer de plein de choses. Et puis, on peut les oublier, les rêves. Même, on n'est pas obligé de les noter au réveil. On peut juste avancer.
Alors, de poubelle, je ne dirais pas ça. Ça peut révéler des choses, effectivement. C'est notamment ce que dit le psychologue Jacques Montangero, qui a élaboré la méthode d'interprétation dont je parle dans le livre. C'est qu'on a plein de biais inconscients, de façons de réagir, de façons de penser... dont on se rend pas compte, et les rêves révèlent tout ça. Ça ne veut pas dire qu'ensuite on pourra les oublier, au contraire, c'est une source de connaissance de soi qui est intéressante. Et il prend plein d'exemples. Par exemple, il a un patient qui a rêvé d'être devant une toute petite porte très étroite et de laisser passer tout le monde, et en déduisant ça, il s'est rendu compte qu'inconsciemment, il avait tendance à s'effacer, à s'écraser un peu devant tout le monde. Donc les rêves peuvent révéler tout ça.
Est-ce qu'on peut choisir de faire des beaux rêves avant de s'endormir ? De se dire, allez, cette nuit, je vais faire des beaux rêves, finis les mauvais rêves.
On peut, il y a des techniques pour ça. Il y a des techniques pour rêver un peu de ce dont on veut. Le principe principal, c'est de penser à ce dont on veut rêver avant de s'endormir.
Donc on ne pense pas à tous les soucis, on pense au positif, c'est ça. Voilà. Un peu comme les enfants qu'on couche, à qui on dit qu'on a du mal à dormir, demain, tu vas voir, on va aller se balader avec maman, ça va être chouette.
Voilà, c'est un peu ça. On s'est aperçu en fait qu'il y avait quand même une grande continuité entre notre vie éveillée et notre vie rêvée, même si nos rêves malaxent un peu tout dans tous les sens. Et donc, ce que vous avez en tête avant de vous coucher, ça va influencer vos rêves. Alors après, c'est pas des techniques qui marchent à tous les coups, mais dans une expérience, par exemple, il y a à peu près 50% des participants qui ont réussi à rêver du thème dont ils voulaient en une semaine avec cette technique-là,
c'est génial.
En visualisant avant de s'endormir.
Comment on fait pour se souvenir de ses rêves ?
Alors. Le principal facteur...
Un conseil.
Ouais. Un conseil, alors vous les notez au matin, oui. Vous tenez un carnet de rêves, et ça, on a vu qu'en une ou deux semaines, ça augmente énormément le souvenir de rêve.
Je vous avoue que je l'ai fait, j'ai fini par abandonner le cahier parce que je me suis dit, mais quelle folie ! Et à la fois, c'est savoureux de voir.
C'est très savoureux.
C'est savoureux. Et votre livre est savoureux et passionnant aussi, comme vous, Guillaume Jacquemont, vous publiez La science des rêves, sans souvenir, les interpréter, les piloter. C'est aux éditions Flammarion. À très bientôt, j'espère, dans Minute Papillon.
Merci, à très bientôt.
Et c'est un autre type de rêve tout de suite. Patrick Fiori qui rêvait, qui voulait chanter absolument avec Florent Pagny dans ce duo qui existe aujourd'hui et que vous savourez sur France Bleu. J'y vais.
S'il faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux, j'y vais. S'il faut retrouver sa lumière
quand la chandelle en vaut le jeu. J'y vais comme un tout premier regard. Le début de mon histoire et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre d'ici jusqu'au bout du monde. Qu'importe où le temps nous porte. Traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves d'hier pour leur donner le monde en mieux. J'y vais quand le passé me distance. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, tous nos secrets perdus dans le temps. J'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs aux reflets d'avant. J'y vais, c'est dans chacun de nous.
Patrick Fiori et Florent Pagny avec J'y vais dans Minute Papillon. Votre émission est terminée. D'autres aventures sur francebleu.fr, sur l'appli aussi. France Bleu, n'hésitez pas, elle est très facile à installer. Faites-vous aider. On se retrouve demain à 14h. Vous allez découvrir tous les secrets de votre voix. Et il y en a. Et des destins impressionnants. Des héros de l'ombre qui ont changé la face de l'histoire. À 15h, après les infos, vous retrouvez Églantine Émeillé. C'est déjà demain.
France Bleu et ActuaBD.com vous présentent les deux bandes dessinées en compétition pour le prix de la BD France Bleu. Ce mois-ci, découvrez Le Baron Perché de Claire Martin, d'après l'œuvre d'Italo Calvino. Puis, partez à l'aventure dans le monde imaginaire et intrigant du tome 1 d'Olive de Cazot et Mazel. Le prix de la BD France Bleu, première édition. Toutes les infos sur francebleu.fr. France Bleu, partenaire de Je te promets, la nouvelle série de TF1, d'après la série originale This Is Us. Paul, Mathis, Maud et Michael fêtent leurs 38 ans. Ils doivent faire face à des choix importants. Bienvenue dans une famille pas comme les autres, avec ses peines, ses doutes, mais aussi ses joies. Avec Camille Lou, Hugo Becker et Marie-Lou Berry. Je te promets, à partir du lundi 1er février sur TF1 à 21h05. Avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu. France Bleu craque pour Sarah Brightman.
Bonjour.
Bonjour,
je suis Sarah Brightman. Je suis très heureuse de vous présenter ma nouvelle chanson avec Florent Pagny, Just Show Me How to Love You. C'est à découvrir sur France Bleu.
Just Show Me How to Love You. Sarah Brightman avec Florent Pagny, en ce moment dans votre playlist 100% France Bleu.
Merci de votre fidélité, France Bleu. Il est 15h, un point sur l'actualité avec la rédaction de France Bleu.